Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, mon invité dans Escale est Romuald Ciura pour parler du livre qu'il a écrit avec Anne-Cécile Robert, « Qui veut la mort de l'ONU ?», un livre préfacé par Pascal Boniface. Romuald Ciura, bonjour.
Bonjour.
Romuald Ciura, vous êtes documentariste, mais aussi essayiste, enseignant, auteur de 4 livres et d'une série télévision sur les Nations Unies. Et vous venez avec Anne-Cécile Robert, donc, qui travaille notamment au monde diplomatique, qui est aussi enseignante, de publier il y a quelques mois un livre qui a pour titre « Qui veut la mort de l'ONU ?» Et vous venez présenter donc ce livre à l'ONU, à la librairie des Nations Unies, pour rencontrer en même temps donc le public et les lecteurs. Alors, le titre, il est quand même très parlant, la question est très forte. Qui veut la mort de l'ONU aujourd'hui?
Le titre, comme toujours, les titres sont un petit peu provocateurs. La thèse de cet ouvrage est il n'y a pas quelqu'un qui veut tuer l'ONU, il n'y a pas un grand super vilain qui, derrière l'obscurité, est en train de manœuvrer pour détruire l'institution. Non, c'est plutôt tout ce qui nuit consciemment ou inconsciemment aux Nations Unies qui est évoqué dans ce bouquin et tenu comme responsable de la perte d'influence politique de l'organisation.
Alors l'ONU, c'est une organisation qui est déjà ancienne. Vous avez, je le rappelle, donc publié 4 livres déjà sur les Nations Unies. Vous connaissez bien la maison, vous connaissez bien ses derniers dirigeants, notamment les 5 derniers secrétaires généraux avant Antonio Guterres. C'est une institution quand même qui est posée, qui a posé sa légitimité. Pourquoi aujourd'hui la remettons en question?
Ce n'est pas l'ONU qui est remise en question aujourd'hui, c'est l'ensemble du système multilatéral né de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans un basculement d'époque, même voire civilisationnel, et tout ce qui est lié à ce système qui a été mis en place à partir de 1945 est en pleine déliquescence, on peut en parler ainsi. Donc l'ONU est une victime collatérale de ce changement d'époque. L'ONU est de moins en moins visible en tant qu'acteur politique sur la scène internationale, et cela est donc dû à cet ordre multilatéral qui est aujourd'hui en train de s'effondrer.
Alors, bien sûr, on ne va pas livrer tout le livre, de toute façon, ça serait impossible. Il y a 200 pages et c'est très fourni, très, très documenté. Mais il y a des tendances actuelles à organiser, par exemple, des réunions. Vous citez le G7, le G8, le G20 et autres réunions qui sont organisées en parallèle ou en compétition avec l'ONU. Est-ce que c'est ce genre d'instrument dont se sont dotés souvent les pays riches qui menacent ou qui, en tout cas, mettent à mal le multilatéralisme?
Oui, bien évidemment. Si vous voulez, on peut dire que le commencement de la chute du multilatéralisme est daté des années 90. En 1992, après la chute de l'Union soviétique, nous avons pu espérer voir enfin l'ONU remplir le rôle politique pour lequel elle avait été créée en 1945, c'est-à-dire devenir ce grand forum d'échange, de dialogue, mais aussi de prise de conscience des grands enjeux politiques du moment. Cela avait bien commencé à partir de 1992. Il y a eu le premier sommet au niveau des chefs d'État. Nous avions un secrétaire général qui avait une véritable vision multilatéraliste de l'ordre international et un président américain, George Bush père, qui avait été ambassadeur aux Nations Unies et qui, lui, avait conscience de l'importance d'ancrer les États-Unis au cœur du système multilatéral, non par altruisme, mais parce qu'il avait conscience que la superpuissance états-unienne ne demeurerait pas la seule plus de 20 ou 30 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, on le voit bien, et que donc si les États-Unis souhaitaient conserver une mainmise et un contrôle sur l'ordre international, cela ne pouvait passer qu'à travers un système multilatéral élaboré et donc à travers les Nations Unies. Malheureusement, pour ce système multilatéral, George Bush n'a pas été réélu et c'est une administration pourtant démocrate, mais qui n'avait pas spécialement conscience des grands enjeux internationaux du moment qui a nuit à ce système multilatéral. Les choses se sont poursuivies au cours des années 2000, essentiellement avec l'administration George Bush fils, qui était très éloigné de la vision de son père. Et ensuite, la crise de 2009 n'a pas arrangé les choses. C'est là où, effectivement, le G20 a été mis en place. Et oui, d'une manière tout à fait officielle, l'objectif avec le G20 n'était pas de contourner les Nations Unies pour contourner les Nations Unies, mais était de pouvoir avoir une action politique et économique plus efficace à 20 jusqu'à 192 à l'époque, ou 191 à l'époque, 193 aujourd'hui État. Donc à partir de ce moment-là, le G20 est devenu le centre des décisions internationales politiques et économiques. Une fois de plus, personne ne voulait spécialement mettre l'ONU en marche. C'était plutôt une recherche d'efficacité et également une non-conscience de ce que le système multilatéral avait pu apporter pendant des décennies. Donc oui, le G20, le G7, les autres ensembles régionaux ont progressivement remplacé l'ONU sur la scène internationale.
Vous citez aussi le forum de Davos et autres cénacles. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dès la naissance des Nations Unies, et on le rappelle, il y avait auparavant la Société des Nations, est-ce qu'il n'y avait pas quand même en germe dans la création de cet ensemble d'institutions internationales, je pense à la Banque mondiale, je pense au FMI et autres institutions, déjà, dès la naissance, donc, un problème essentiel de division des tâches et en même temps de morcellement un peu des responsabilités?
Oui, bien sûr, c'était en germe dès la naissance. Mais on aurait pu éviter d'en arriver là. Le problème, comme vous le savez très bien, a été le manque de réformes accumulées au cours des décennies. Pour parler de la plus simple, qui est celle du Conseil de sécurité, on me pose souvent des questions sur cette réforme, qui pour moi est un serpent de mer qui ne verra jamais le jour, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est plus que nécessaire.
Tout au long du livre, vous passez une bonne partie de l'ouvrage à faire le point un peu, à rappeler l'histoire ô combien riche, parfois également la sédimentation de certaines organisations qui se sont ajoutées. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, avec les outils qu'il y a, malgré tout une possibilité déjà donc, de réformer, vous parliez du Conseil de sécurité, de réformer ce Conseil, sachant que bon, c'est vrai que ça fait en gros 25 ans qu'on parle de la réforme, de l'élargissement, de la composition et de la répartition géographique équitable. Est-ce qu'il n'y a quand même pas déjà des éléments qui permettent, malgré la crise, malgré tout, d'aller dans ce sens-là et de faire que l'ONU n'est plus seulement un résultat de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale?
Bien sûr. Le problème n'est pas pouvons-nous, le problème est voulons-nous. Il y a un manque de volonté évident de la plupart des États membres, une fois de plus, non pas avec l'objectif de nuire aux Nations Unies, mais tout simplement manque de volonté de par le fait de pourquoi s'ennuyer avec une institution multilatérale à 193 membres quand aujourd'hui on peut s'entendre beaucoup plus facilement à 7, 20, voire à 2. Donc oui, il y a la matière, évidemment, pour réformer les Nations Unies. Oui, ces réformes seraient possibles. Le problème est un manque de volonté de la part de certains États membres, essentiellement des plus importants. Et donc, malheureusement, je crois que nous allons continuer à voir l'ONU être éclipsée de plus en plus de la scène politique internationale et demeurer cette organisation extraordinaire qui fait ce travail si vital dans de nombreux pays au niveau humanitaire, développement, droits de l'homme, protection de l'enfance, l'UNESCO, etc., etc. Mais l'ONU comme acteur politique, je pense que malheureusement, bien qu'il serait encore possible de la ramener au centre du jeu, je pense que malheureusement, celle-ci va disparaître définitivement d'ici une dizaine d'années.
Est-ce que ça ne tient pas aussi aux dirigeants qui sont élus par des peuples, ou qui ne le sont pas d'ailleurs, qui sont assez, par certains côtés, différents de la génération passée? Je pense aux États-Unis, je pense à la Russie, je pense aux Européens, je pense à bien d'autres, qui aujourd'hui, donc, ce Conseil de sécurité se réunit, et c'est récent, relativement récent, depuis une vingtaine d'années maximum, au niveau ministériel et présidentiel. Il y a quand même donc une volonté de siéger au Conseil de sécurité, de montrer que l'un des organes principaux, sinon principal, est essentiel en termes de politique internationale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement à créer des G20, à créer d'autres réunions bilatérales carrément pour régler un conflit, je pense avec la Corée pour les États-Unis ou d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même? Parce que la légitimité, une fois de plus, c'est la réalité politique de ces réunions présidentielles ministérielles, c'est quand même quelque chose de palpable.
Bien sûr, il y a une véritable contradiction. Mais n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans un temps où la démocratie est en perte de vitesse. Alors que beaucoup de personnes avaient cru après 92 que la démocratie allait s'étendre à l'ensemble de la planète, oui, elle s'est étendue, mais le système démocratique par lui-même est aujourd'hui sur une pente assez abrupte. On n'a que le voir même dans les démocraties occidentales, etc. Donc pour revenir à votre question, au début de votre question, la génération génération actuelle de nos dirigeants est très éloignée de celle de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus cette prescience de l'importance de la démocratie comme nos aînés ont pu le connaître, essentiellement dans le monde occidental. Donc tout ce qui a rapport à ce monde d'hier, post-Seconde Guerre mondiale et donc démocratique, semble un petit peu obsolète à la plupart de nos dirigeants. Donc oui, ils viennent lors des grandes réunions de l'Assemblée générale. Oui, ils se montrent parce qu'ils pensent que c'est important. Ce n'est pas uniquement de la communication. Oui, il est important de communiquer. Il est important d'être présent au niveau multilatéral via les Nations Unies pour certaines réunions. Mais voilà, basta. Le reste est traité de manière bilatérale ou par groupes régionaux, etc. Il n'y a plus ce besoin, il n'y a plus cette prescience de la nécessité d'instaurer la démocratie au niveau mondial. C'est fini. Et malheureusement, l'ONU est donc une fois de plus une victime collatérale de la perte de vitesse de la démocratie.
Qui dit démocratie dit peuple souverain, dit nous les peuples du monde, c'est la charte, le préambule, et dit surtout donc opinion publique qui est informée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias, les livres que vous avez écrits, le travail que fait ici le département donc, de l'information, aujourd'hui département de la communication globale. Il y a un travail énorme qui est fait de vulgarisation, d'enseignement, même au niveau des élèves, il y a des simulations ONU. La chose est connue. Pourquoi aujourd'hui l'opinion publique n'arrive pas à se mobiliser pour prendre le relais avec ces démocraties malades, avec cette peut-être perte aussi de notions de droits de l'homme et autres, pour essayer de faire entendre sa voix à travers les ONG qui sont beaucoup plus présentes, par exemple.
L'opinion publique occidentale est aujourd'hui beaucoup plus indolente que ce qu'elle était il y a 10, 20 ou évidemment 30 ans. Prenons un exemple très simple, le Venezuela aujourd'hui. On ne va pas s'étendre sur le régime de Maduro, qui est un régime qui a failli. Maduro est absolument pas un bon président, et son régime est devenu autoritaire, etc., etc. On est tous d'accord que Maduro doit quitter la présidence du Venezuela. Mais ce qui se passe avec les États-Unis aujourd'hui est une forme, enfin, il y a une tentative de coup d'État, on peut le dire. Enfin, ce qui se passe est tout à fait honteux. Regardez aujourd'hui, alors qu'il y a eu et qu'il y a encore des bruits de bottes concernant le Venezuela, le manque de concertation de la communauté internationale et des populations. Tout le monde s'en fiche. Alors que lorsque les États-Unis de George Bush, fils, s'apprêtaient à envahir l'Irak en 2003, la communauté internationale, les ONG, les populations se sont motivées d'une façon extraordinaire. Je me rappelle en France, en Grande-Bretagne, de ces manifestations réunissant des centaines de milliers de personnes venues protester contre l'ingérence des États-Unis en Irak. Aujourd'hui, pour ce qui est du Venezuela, et je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas quand même comparer Maduro à Saddam Hussein, qui était un effroyable dictateur, un monstre, un criminel, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Donc, pour répondre à votre question, la nouvelle génération se sent absolument moins concernée par ce genre de grands enjeux politiques. Le climat, oui, mais tout ce qui touche à la défense de la démocratie, des droits de l'homme, c'est un petit peu comme si les nouvelles générations en Occident étaient anesthésiées. Et une fois de plus, cela vient de ce qui s'est passé après la chute de l'Union soviétique, de l'ultralibéralisme aujourd'hui poussé aux extrêmes en Occident, etc., etc. Mais il y a un manque d'envie, il y a un manque de concertation et de prise de conscience des dangers que rencontre l'Occident aujourd'hui de la part de la nouvelle génération. Ça, c'est certain.
Voilà, et c'est avec Romuald Ciora, co-auteur avec Anne-Cécile Robert du livre « Qui veut la mort de l'ONU ?» que se referme ce magazine Escale. Escale, magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Escale, un programme d'ONU Info à retrouver avec nos journaux quotidiens, nos vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.